Merci Tiffen, bon week-end. Deux invités, des cabanes et vite, hein, des paysages, des métamorphoses, de la bravoure, des poètes et une question, comment j'habite, avec l'historienne de la littérature Marielle Massé et l'historien de la géographie Jean-Marc Besse.
La compagnie des poètes par Manu Farine.
Et c'est jusqu'à 16h. Marielle Massé, Jean-Marc Besse, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
À tous les deux, tous deux liés notamment par l'attention portée à l'attention, qui travaille largement vos deux livres, hein, attention au paysage, écoute du paysage, mais aussi de l'eau, des rivières, des oiseaux, du vivant, des sols et des poètes. Et sans doute faudrait-il y ajouter le goût de la fabrique des liens, de la fabrique tout court d'ailleurs, des lignes et des métamorphoses, l'un en philosophe et historien de la géographie, l'autre en historienne de la littérature, l'un et l'autre dépaysant ou élargissant leurs propres outils. Jean-Marc Besse, également co-directeur de la revue Les Carnets du Paysage, est désormais directeur de collection puisque vous inaugurez aux éditions Parenthèse la collection La nécessité du paysage et en signez même le premier opus éponyme, hein, dans lequel le paysage se ferait espace relationnel, mouvement et conditions sensibles et émotionnelles même de notre existence. Paysage et nécessité qui ne manquent pas de travailler nos cabanes, hein, que vous signez Marielle Massé aux éditions Verdier. Un petit essai rayonnant en trois temps, essai écrit à l'infinitif, on y reviendra, qui plaide, comme le plaide d'ailleurs Jean-Marc Besse, pour une autre façon d'habiter, pour d'autres formes de vie, et que pour ce faire, une fois n'est pas coutume, s'en remet à l'expertise des poètes. Tant et si bien que vous avez même mené à la Maison de la Poésie à Paris un cycle mensuel de conférences titré « Nos cabanes ». Alors c'est à Olivier Cadiot que reviennent les tout premiers mots de ces cabanes. Je cite « 47% des vertébrés disparus en 10 ans. Faut qu'on se refasse une cabane, mais avec des idées au lieu de branches de saule, des images à la place de lièvres géants, des histoires à la place des choses. » Est-ce que c'est la lecture de Cadiot qui fait venir la cabane à vous, et j'allais dire même le mot « cabane ».
En fait, la lecture de Cadiot, je l'ai rencontrée sur un chemin qui était déjà scandé de beaucoup de cabanes, mais c'était formidable de comprendre qu'un poète disait avec tant de fermeté la nécessité de s'en remettre à ce type de geste et avait chéri lui aussi ce mot-là. Donc c'est plutôt de l'ordre d'une rencontre et du type de bonheur qu'on éprouve à la lecture des poètes qui soulèvent et qui soutiennent en nous des mouvements qu'on peut construire autrement dans la pensée, dans la pratique.
Est-ce que la cabane, au fond, pourrait tout aussi bien être l'un des noms de l'écriture ?
Ah, j'aimerais bien ça. Ça serait une très belle idée. Une idée qui, d'abord, nous encouragerait à aligner l'écriture sur d'autres pratiques et à considérer que écrire, voilà, c'est faire quelque chose avec son corps, comme parler, c'est faire quelque chose avec sa bouche, écrire, c'est faire quelque chose avec ses mains, avec ses bras, c'est bâtir, c'est accueillir, c'est élargir. Et oui, j'aimerais bien concevoir l'écriture comme une cabane à condition, et c'est l'une des insistances, disons, de ce livre, à condition que la cabane ne soit pas une figure du refuge, de l'abri reclus, du tourner le dos, mais toujours celle de l'invention, bricolée, parfois difficile, construite avec le meilleur et le pire de notre monde présent, l'invention de façon de se tenir dans un monde abîmé et d'essayer encore et de faire à plusieurs.
Alors, puisqu'on parle d'écriture, Marielle Massé, une chose frappe, alors il n'y a pas que ça évidemment, mais une chose frappe le lecteur de nos cabanes, et puis vous-même vous en faites mention d'ailleurs, c'est le recours insistant à l'infinitif, hein, à commencer bien sûr par le faire des cabanes. Hein. Nos cabanes, c'est un texte qui dit jardiner, penser, élargir, inventer, repartir, relancer, déclore, écouter, entendre, se demander. Enfin, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça dirait de la nature même du texte, hein, que ce recours à l'infinitif ?
L'infinitif, c'est cette espèce de mode du possible. Voilà, on pourrait encore faire comme ça, on pourrait encore faire comme ça. Il y a une invitation dans l'infinitif, il y a des langues dans lesquelles l'impératif se construit avec un infinitif. Il y a une invitation, une énergie, un accueil et en même temps une espèce de déclosion, je crois, dans l'infinitif qui nous engage, qui nous pousse, qui nous demande d'y aller, de se mettre en route, d'aller plus loin, que je trouve très très précieuse.
Peut-être si vous le voulez bien, Marielle Massy, est-ce que vous voulez bien peut-être nous lire quelques lignes?
Faire des cabanes en tout genre, inventer, jardiner les possibles, sans craindre d'appeler cabane des huttes de phrases, de papier, de pensées, d'amitié, de nouvelles façons de se représenter l'espace, le temps, l'action, les liens, les pratiques. Faire des cabanes pour occuper autrement le terrain, c'est-à-dire toujours aujourd'hui, pour se mettre à plusieurs. Surtout pas pour prendre place, se faire une petite place là où ça ne gênerait pas trop, mais pour accuser ce monde de place faite, de place refusée, de place prise ou à prendre. Faire des cabanes sans pour autant se contenter de peu, se résigner à une politica povera, s'accommoder de précarité de tous ordres et encore moins les enchanter, sans jouer aux nomades ou aux démunis quand justement on ne l'est pas, mais pour braver ces précarités, leur opposer des conduites et des convictions. Des cabanes qui ne sauraient soigner ou réparer la violence faite aux vies, mais qui la signalent, l'accusent et y répliquent en réclamant très matériellement un autre monde qu'elles appellent à elles et que déjà elles prouvent. Faire des cabanes sans forcément tenir à sa cabane, tenir à sa fragilité ou la rêver en dur, installée, éternisable, mais pour élargir les formes de vie à considérer, retenter avec elles des liens, des côtoiements, des médiations, des nouages, faire des cabanes pour relancer l'imagination, élargir la zone à défendre, car de la ZAD, c'est-à-dire de la vie à tenir en vie, il y en a un peu partout sur notre territoire. Faire des cabanes, donc, pour habiter cet élargissement même.
Merci. Alors, Marielle Massy, tout à l'heure, vous avez fait allusion donc aux cabanes qui ne vous intéressent pas, en l'occurrence, hein, les cabanes qui sont de l'ordre du projet solitaire ou de l'abri ou du repli sur soi, mais ce qui nous en laisse quand même beaucoup, si on enlève celle-là, hein, donc surtout dans la mesure où il y a des cabanes qui peuvent être des cabanes contraintes, subies, hein, celles des campements, celles qui poussent dans les villes, celles qui disent la précarité, hein, que ce soit à Calais ou sur les quais d'Austerlitz, hein, vous aviez déjà eu l'occasion d'en parler il y a peu. Il y a celles qui tiennent un discours, ou en tout cas qui disent une forme de vie, comme celle des zadistes. Il y a des cabanes qui se rêvent maison, mais ça j'imagine qu'elles vous intéressent moins aussi. Et puis les cabanes d'artistes, d'architectes, d'enfants, de jardiniers. Les cabanes de touristes, hein, celles qui, dites-vous, enchantent la précarité. Tout ça tiendrait dans une cabane. Qu'est-ce qui ferait tenir justement toutes ces cabanes-là ensemble, hein.
Pour moi, c'était l'un des intérêts de cette figure qui nous réchauffe tellement de la cabane, qui nous réchauffe autant que le pronom « nous », qui nous fait envie, qui nous rappelle à l'enfance et qui, en même temps, est porteuse de l'un des imaginaires à la fois les plus engageants et les plus louches d'aujourd'hui, quand justement on fait semblant de manquer de maison alors qu'on en a une. Et justement, pour moi, l'intéressant, c'était d'essayer de tout prendre ensemble et de se dire, le monde qu'on a habité, c'est ce monde abîmé, animé de toutes sortes de désirs qui peuvent n'avoir rien à voir les uns avec les autres, mais on est pris dans ce monde-là.
Qu'est-ce que la cabane réelle ou psychique, hein, d'ailleurs, mais bon, là, ça nous amènerait encore sur d'autres terrains, pourrait évoquer pour... Alors, un philosophe et un historien de la géographie, Jean-Marc Bess, est-ce que ça pourrait être une reformulation du paysage ?
Moi, ce que j'entends dans ce que dit Marielle, c'est une interrogation plus générale sur qu'est-ce que c'est que se tenir dans le monde. Et j'entends derrière ce mot « tenir » ou « se tenir » une métaphore importante, un imaginaire important, une réflexion assez décisive sur ce que c'est tout simplement qu'habiter.
Marielle Massy.
Le monde dont on parle, c'est un monde saccagé, faisant l'objet de bouleversements écologiques, mais aussi de violences sociales et politiques de très grande envergure. Et cette idée de la cabane, elle nomme aussi le sentiment que ce monde-là, il s'agit plus tellement d'espérer l'habiter poétiquement, ni même tenter de le réparer, de désenfumer le terrier, comme dit Michel Deguy. Il s'agit de prendre acte de perte et de mutation de dimension inouïe, de pluie d'oiseaux, de fleuves en colère, de sols saccagés, et donc d'inventer d'autres façons de faire quelque chose de bien avec ces pertes-là. Et la fragilité de la cabane, elle a aussi à voir avec cette gravité écologique d'aujourd'hui.
Faire quelque chose de bien, alors il s'agit bien de faire, hein, évidemment, mais faire quelque chose de bien, Marielle Massé, pour autant, le verbe que vous associez aussi souvent à la cabane, c'est celui d'accuser.
Oui.
De la cabane qui serait un geste ou une opération,
oui.
Ou une façon de se tenir, justement, comme disait Jean-Marc Besse, qui serait oui. De cet ordre-là, de l'accusation.
La cabane, c'est pas seulement un lieu où on va tourner le dos aux conditions du monde présent, mais où on va effectivement installer une vie qui consiste aussi à tenir un discours, à accuser le monde tel qu'il va, à réclamer qu'il se transforme, à prouver qu'on peut s'y prendre autrement. C'est l'une des manières peut-être les plus efficaces d'expliquer la destruction des cabanes de Notre-Dame-des-Landes. C'est qu'elle faisait peur, parce que c'est pas seulement qu'on y vivait d'une certaine façon, c'est qu'on y prouvait qu'on pouvait s'y prendre autrement, avec les sols, avec les liens, avec les autres, avec la vie en général.
Alors pour autant, Marielle Massé, la cabane, c'est aussi refuser un monde de place. Et la cabane, si on la prend comme un objet architectural, c'est aussi un objet qui ne fonde rien.
Alors effectivement, refuser un monde de place, pour moi, ça a été l'une des premières occasions de rencontrer cette question et cette figure. Et notamment dans l'échange avec des gens plus jeunes que moi, beaucoup plus jeunes que moi, qui m'ont fait comprendre à quel point... eux, depuis qu'ils sont nés, s'entendent dire que pour eux, il n'y aura pas de place. Il n'y aura pas de place, en tout cas pas comme nous. Il n'y aura pas d'emploi, il n'y aura pas de logement, il n'y aura pas de prise sur leur propre futur, en tout cas pas comme nous. Voilà, pour vous, pas de place. Et ça rencontrait, disons, des analyses très très précieuses de la sociologie critique, comme celle de Luc Boltanski, qui se trouve être aussi poète, qui a écrit un grand poème intitulé « Les limbes » et qui décrit... l'une des expériences sociales contemporaines les plus fragilisantes, qui est le fait de se sentir toujours, se savoir toujours objet de sélection. Hein. Attendre pour qu'on vous choisisse, attendre pour qu'on veuille bien vous soigner, attendre pour qu'on veuille bien vous reprendre dans l'univers du travail, par exemple. Et donc j'entendais avec force la violence de ce monde de place occupée et refusée, et j'entendais aussi l'esprit de bravade que certains jeunes collectifs, par exemple, opposent à cette idée d'un monde de place.
Car rien, décidément, écrivez-vous, ne nous oblige à vivre comme ça.
Oui.
C'est très différent les villes et les villages qui n'ont pas de rivière, ou du moins qui n'ont pas un rapport significatif à une rivière qui les longe ou qui les traverse. Et spontanément, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai toujours tendance à ressentir l'absence de rivière comme un manque, quoi. Elle est parfois menaçante, mais dans l'ensemble, si on faisait statistiquement sur l'année ou sur la longueur d'une vie humaine, la rivière, elle est plutôt une protectrice quand même. Elle parraine la ville. Et ce que ça a de formidable, une rivière, c'est que elle est là, elle est toujours là, mais elle est toujours là en train de s'en aller. Elle est toujours en train de s'en aller. Et même des fleuves qui sont très changeants, comme celui que je fréquentais quand j'étais petit, quand j'allais chez ma grand-mère, c'était à la Loire, elle change énormément de forme, avec les bancs de sable qui bougent, des endroits où il y a des sables mouvants, des zones de courant très fort qui creusent, etc. Je n'y vais plus comme j'y allais étant petit, mais il m'arrive de repasser par là-bas. Et c'est elle. Elle est quand même là même. Et ce qui est beau, c'est que c'est pas seulement sa personnalité liquide, on peut dire, c'est ce que cette présence, cette forme d'eau qui descend, fait à la lumière ou dans la lumière. Il y a une lumière Loire qui est vraiment pas du tout une légende, à Nevers, à Orléans, bien sûr, mais déjà vers Roanne, on la reconnaît. Il y a une clarté qui vient. Il y a du bleu, il y a des verts très sombres, il y a presque des bruns, il y a des ocres, il y a de tout. et j'aime beaucoup, entre autres, Saint-Nazaire, parce que c'est le lieu où cette lumière se dilue dans celle de l'océan.
La voix très douce hein, du poète et écrivain Jean-Christophe Bailly. Hein, c'était pour l'usage du fleuve, une série documentaire que je vous engage d'ailleurs à réécouter. Signé Martine Alba et Annabelle Brouard, c'était en décembre 2017 et c'était sur France Culture. C'est vous qui m'avez demandé, Marielle Massé, d'en choisir un extrait, ce qui n'a pas été facile parce qu'on avait un peu envie de tout garder. Avant que de parler d'eau qui travaille vos trois textes, hein, les trois textes qui se trouvent dans nos cabanes, Marielle Massé, un mot peut-être sur ce qu'on vient d'entendre.
Jean-Christophe Bailly dit avec beaucoup de simplicité cette chose considérable qui est qu'une rivière, c'est presque quelqu'un, c'est comme un bébé, une personne. C'est elle, dit-il, on la reconnaît. Cette conviction-là, elle est formidable pour aujourd'hui où, que ce soit dans les espaces politiques, anthropologiques ou juridiques, on cherche à savoir comment on pourrait bien faire pour transformer les éléments de la nature en décors qu'on les croyait être, en partenaires, en individus, en personnes avec lesquelles on doit nouer des liens. Et il me semble que les poètes, disons, ont l'audace de tenir ces choses-là pour des personnes depuis bien longtemps. Et puis bien sûr, il y a cette insistance de Bailly pour dire que la rivière n'est pas seulement la rivière, elle est aussi tout ce que sa présence fait au paysage. Il y a une grande différence, par exemple, entre s'intéresser pour une rivière à l'unité de son cours, à la ligne qu'elle forme, et puis au territoire qu'à la fois elle fend et unit quand on s'intéresse à ce qu'on appelle le bassin versant ou l'ensemble des chevelus qui font que la rivière est beaucoup plus qu'elle-même. Elle est aussi tout ce que sa présence fait au paysage et nous fait en termes de lumière, d'expérience, de souvenirs, de force de mémoire.
L'eau que vous écoutez donc attentivement hein, dans ces textes-là, Marielle Massé, c'est par elle que vous ouvrez nos cabanes, hein, par un petit texte titré Les nous, et puis c'est par l'eau aussi que vous fermez le texte. Alors, ce qui est un peu curieux, c'est que les nous, alors je vais peut-être vous laisser définir, nous expliquer ce que c'est exactement que les nous, mais à la différence de ce que disait Jean-Christophe Bailly tout à l'heure, qui est l'idée que la rivière, c'est ce qui s'en va, les nous, c'est précisément ce qui reste.
Ce qui en reste
d'une certaine façon. Qu'est-ce que ce mot-là vous fait à vous, celui des nous en l'occurrence, parce que c'est aussi une manière alors de parler de nous, bien sûr on va revenir sur cette question du pronom personnel, mais de parler de vous aussi parce que c'est aussi de là que vous venez d'une certaine façon. Qu'est-ce qui fait que ce mot-là serait une chance et que ce serait une fois encore un mot à défendre?
Oui, alors les nous, ça s'écrit avec un E.
Oui, alors N-O-U-E-S.
C'est un toponyme, un nom de lieu très très fréquent dans la région d'où je viens, qui est en gros entre Notre-Dame-des-Landes et Saint-Nazaire, entre cette zone humide à défendre et ce moment de l'estuaire qui est justement, nous invite en permanence à la partance. Les nous, ça désigne des sortes de petits fossés herbeux qui retiennent les eaux de pluie et qui constituent aussi les supports de techniques, de façons de s'y prendre avec une eau qui n'est pas considérée comme un rebut mais comme une ressource justement. Donc ça désigne une manière de favoriser la permanence d'une présence humide sur des territoires où la présence de l'eau a pu être malmenée dans cette zone autour de Nantes, en gros, cette zone qui a été l'un des espaces agricoles les plus saccagés à partir de l'après-guerre, et où curieusement ce nom-là, les nous, résonnait de façon presque fantomatique alors que les sols étaient particulièrement appauvris. Hein, moi j'ai souvenir, donc bah, je viens d'une famille d'agriculteurs, de maraîchers, j'ai souvenir de terres très sableuses ou sablonneuses qui étaient pâles, qui étaient sans odeur, qui étaient sans beauté, qui avaient été aussi privées de leur... de leur bocage, de leur façon auparavant de se segmenter. Mon père me racontait quand il était petit, avec ses cousins, il se cachait dans un mètre carré de zones de petites rues, de petits ruisseaux où couraient toutes sortes de tout petits poissons qu'on aimait manger au moment où ils étaient encore particulièrement petits. Et c'était stupéfiant qu'il me raconte ça, parce que maintenant on appelle ça des tenues, comme on dit avec l'accent de l'Ouest. Et puis j'ai eu la surprise de retrouver ce mot en abondance à Notre-Dame-des-Landes, sur la ZAD, où il y a beaucoup de lieux-dits qui portent ce nom-là, où il y en a un aussi qui a fait l'objet d'une espèce de tout petit poème inscrit dans la cartographie, dans la géographie très précaire de Notre-Dame-des-Landes, sur un coin de boîte aux lettres, puisque sur le lieu dit qui s'appelle Les Noues, quelqu'un a ajouté non plus, disant à quel point justement cet espace qui disons que l'on défend à la mesure même que l'on refuse de l'aménager et qu'on cherche à le ménager, à le protéger, à y favoriser la vie, cet espace était aussi un grand espace de militantisme et de refus. Là, nous non plus. Alors ce mot, je l'ai en effet saisi comme une chance pour moi de laisser dériver tout ce que ce mot fait venir à lui, toute la question des liens et du nouage, évidemment la force du pronom « nous », et puis cette espoir d'une autre façon de s'y prendre avec le sol et de façon plus générale avec la nature, qui était engainée dans ce vieux mot qui me permettait à moi de laisser revenir mon vieux pays très très abîmé et qui aujourd'hui se trouve en quelque sorte sidéré par les luttes dont il sait pourtant être le réceptacle.
Jean-Marc Bess, je vous vois gratter sur un petit carnet.
Ça me touche beaucoup parce que à deux niveaux. D'abord parce que effectivement, je pense que il y a cette espèce de nouage entre le poétique, le politique et le paysage. Et ça me touche beaucoup. Et puis en écoutant Marielle évoquer l'enfance de son père et la sienne propre, je ne pouvais pas manquer de penser à la mienne et à celle de ma famille également rurale, hein. Et en tout cas une expérience que j'ai pu faire et que je pourrais convoquer immédiatement, c'est que l'expérience de la transformation du paysage et en tout cas de la disparition de certaines qualités d'eau, de certaines eaux, moi je l'ai vécu différemment, c'est sur un autre registre des éléments naturels, c'est le vent. Moi je suis plutôt du côté, on va dire, bourguignon, au nord de la Bourgogne, et ce que j'ai vu apparaître il y a une vingtaine d'années, c'est précisément le vent, mais un vent insupportable, pas un vent léger, pas un vent agréable, mais un vent qui venait modifier considérablement la relation qu'on pouvait entretenir avec le paysage et avec le lieu que j'occupais, qui portait un nom d'ailleurs peut-être prémonitoire, Malicorne, hein. Et au fond je me suis posé vraiment la question, mais pourquoi ce vent dont on n'avait pas du tout l'habitude, dont on n'avait pas du tout tout simplement l'usage. Et puis au fond, ça correspondait précisément à des transformations du paysage agricole, des pratiques agricoles, c'est-à-dire en particulier la disparition des haies, c'est-à-dire le remembrement, c'est-à-dire l'augmentation de la taille des parcelles, c'est-à-dire la mécanisation, c'est-à-dire également ce que Marielle évoquait il y a un instant, le fait de creuser des canaux d'irrigation, si je puis dire, enfin, etc., etc., tout un ensemble qui ont de pratiques, au fond, qui ont affecté de façon considérable non seulement le paysage tel qu'il est effectivement, mais tel qu'il est vécu également, parce que tout ça s'accompagne de diminution de la population agricole, de vieillissement de la population, de disparition finalement d'un monde rural qui a existé finalement jusqu'à encore une trentaine ou une quarantaine d'années et qui s'est effiloché comme ça et qui a été remplacé par je ne sais pas quoi, hein, mais en tout cas par quelque chose qui est assez déplaisant.
Alors il y a le vent. Il y a aussi ce dont parle Marielle Massé dans son essai, qui est le fait d'entendre qu'on n'entend plus les oiseaux.
What's in a bird? Un albatros mort sur une plage. What's in a bird? Nombreux. Pas une chanson volage, mais bouchon de bouteille, sans message de l'oiseau, coca, fanta, soda, du zéro sucre, sans joie, des pailles comme s'il y avait la mer à siroter, des morceaux de poupée Barbie, pas de musique, des perles de toute taille et couleur en plastoc, des card subscriber identity module, des chewing-gums, des codes-barres, des branches de lunettes noires, des tubes de rouge à lèvres et des capotes anglaises, peut-être aussi un peu d'une tortue médusée, une tortue confondant sac plastique et méduse. What's in a bird échoué sur le sable mauvais du temps atroce qu'il fait, l'oiseau actualisé.
L'oiseau actualisé, c'est tout un programme. Un poème donc de Valérie Rouzeau, extrait de Sens inverse, hein, qui est un recueil paru aux éditions de la Table Ronde, lu par Jacques Bonafé, on l'aura reconnu, sur cette antenne, bien sûr. Et c'était en mai dernier. Vous citez Marielle Massé également, Ponge, qui rappelait dans ses notes prises pour un oiseau qu'en français, le mot oiseau contient toutes les voyelles de l'alphabet et que cela en fait une sorte de chant intégré ou latent. Et au fil de l'eau, au fil des pages, au fil des lignes qui se tracent, hein, on repère celles des poètes. Je pense à Henri Michaux, je pense à Jacques Darras, ça c'est encore les rivières, à Michel Deguy, à Emmanuel Occar, pour les haies d'ailleurs, Aragon pour le nous, Dominique Méens pour les oiseaux, Glaise pour les cabanes, Ponge parce que c'est vous, et puis pour la fidélité au réel, j'imagine. Qu'est-ce qui ferait de la poésie au fond un modèle, voire une expertise possible pour vivre autrement?
Alors j'aime beaucoup ce poème de Valérie Rouzeau, l'oiseau actualisé. L'oiseau dont elle parle, c'est un oiseau qui goberait des morceaux de plastique et qui donc nous parle avec des images très, très fortes et très brutales des océans pollués, de ces eaux abîmées. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui en effet la possibilité d'un génie du poème pour nous équiper, pour nous accompagner dans ce désir de transformer, encore une fois, comme on le dit depuis le début, nos façons de nous y prendre avec le monde. D'abord parce que ces choses de la nature qui réclament très très fort qu'on les traite autrement, ce sont les très vieilles choses lyriques, celles dont les poètes s'occupent depuis toujours. Ensuite, il y a une audace dans le poème à s'adresser à ces choses qui n'entendent pas, ne parlent pas, ne répondront pas, avec lesquelles on ne saurait converser, hein, sauf par fable ou par fiction, mais justement, la poésie ne raconte pas d'histoire, elle cherche un autre usage de la parole, elle nous aide à exercer notre responsabilité d'être parlant avec ces choses muettes ou réputées muettes. Et donc je trouve qu'il y a une audace chez tous ces poètes que vous venez de citer à construire une scène de partage dans la grammaire, dans la syntaxe, avec toutes ces choses qui, on doit insister, ne sont pas notre décor, mais sont nos partenaires, nos voisins, ceux avec lesquels on doit construire une réflexion sociale et politique totalement rénové. Et il y a notamment l'abondance aujourd'hui de poèmes qui nous parlent des oiseaux, il y a quelque chose comme une alerte, un effet d'alerte. Il y a une sorte de pluie d'oiseaux qui tombe sur non seulement la poésie, mais aussi l'anthropologie ou la philosophie contemporaine. Et avec insistance, on sent, on entend qu'il nous faut prêter l'oreille au risque d'un silence ou à un nouveau silence. Et il y a effectivement des poètes que moi je trouve à la fois d'une audace et d'un scrupule extraordinaire, comme Dominique Méens dans Mes langues au sel, qui se demande ce que nous dit un oiseau qui pourtant ne nous adresse rien.
Parce que c'est nous qui le suspectons de chanter. Hein.
C'est ça. Mmh. Cette expression-là, il l'avait eue avec vous dans cette émission, il y a 2 ou 3 ans. Les oiseaux ne chantent pas, c'est nous qui soupçonnons les oiseaux de chanter. Pour eux, c'est tout autre chose, disait-il. Et effectivement, je trouve qu'il indique très très bien le site où on peut se tenir quand on n'est pas un scientifique, c'est-à-dire quand on n'est pas quelqu'un qui va pouvoir réfléchir au langage des oiseaux, à ce que les oiseaux se communiquent les uns aux autres, aux messages qu'ils s'envoient. Mais un poète, c'est-à-dire quelqu'un qui va réfléchir au territoire de sens qui est produit par notre voisinage avec les oiseaux, parce que ça nous par ce que ça nous fait de les entendre chanter moins, de les voir tomber, de les entendre nous dire qu'ils se taisent. Moi, je tente cette expression dans ce livre, de les entendre non chanter, de les entendre à la fois chanter et non chanter. Et voilà, il me semble qu'il y a dans la poésie des ressources pour s'équiper mieux en pensée, en imaginaire, en parole, en tact dans nos façons de nous y prendre, s'équiper mieux pour ce moment qu'on appelle celui de l'anthropocène. Voilà, le poème comme grand chant abîmé, sachant qu'il l'est, de l'anthropocène.
S'équiper mieux donc, parce que les oiseaux. Besoin de Dominique Méhens pour pouvoir identifier tout ça. Ce qu'on entend, c'est un paysage sonore, hein, collecté, enregistré par Bernie Krause, qui est musicien, bioacousticien. C'est à lui qu'on doit notamment le principe de l'écologie du paysage sonore. Hein. C'est quelqu'un qui a passé des années, une vie même, hein, je dirais, à enregistrer les sons de la nature et donc à donner à entendre justement ces changements. Je pense notamment aux oiseaux, hein, et à ce chant qui s'amenuise. Alors on l'entend là entre vous deux. Alors moi j'ai cru pendant un temps que c'était magie de la rencontre et que vous aviez Jean-Marc Besse et Marine Massé, que vous aviez par hasard, par extraordinaire, choisi le même son, la même archive, fort pointue, donc d'un bioacousticien. Il n'en est rien puisque vous vous êtes entendu, semble-t-il, avant, c'est le mot qui convient. Pour autant, ça ne veut pas dire que vous y entendiez la même chose. Jean-Marc Besse.
Ce qui me frappe, d'abord après avoir écouté Marielle, et puis ensuite ces oiseaux, et c'est aussi ce que raconte Bernie Krause concernant la relation qui existe entre la richesse et la disparition de cette richesse dans le travail de Bernie Krause, qui avait été magnifiquement présenté il y a quelques années dans une exposition à la Fondation Cartier. C'est que il nous plonge très directement, très immédiatement, dans l'expérience des effets, des conséquences d'une certaine manière de faire avec le monde. C'est immédiat. Il n'y a pas à raisonner longtemps. Il n'y a pas à élaborer de grands modèles scientifiques pour se rendre compte que, tout simplement, les oiseaux, le matin, ne sont pas là. Ou qu'en tout cas, la richesse sonore qui avait baigné l'enfance de beaucoup de gens, cette richesse est en train de... ou a déjà peut-être disparu. Et au fond, je pense que c'est important, cette question de la... Enfin, en tout cas, du point de vue que j'essaie d'adopter, hein, s'agissant du paysage, c'est important de réfléchir en termes de richesse et de pauvreté, de la relation sensible, sonore en particulier, mais pas que nous pouvons entretenir avec notre monde.
Quelle serait la place alors prise par les oiseaux, si on essayait, et on va essayer hein, quand même, de donner quelques contours à cette notion de paysage que vous abordez, Jean-Marc Besse, dans La nécessité du paysage, hein, qui vient juste de paraître aux éditions Parenthèse. Donc si, alors très très prudemment, on s'attarde sur le versant, donc versant nature et versant homme du paysage, comment est-ce que l'oiseau trouve sa place? Est-ce qu'au fond, là, on ne rejoindrait pas aussi ce pourquoi plaide Marielle Massé, c'est-à-dire une anthropologie élargie qui intégrerait, par exemple, au-delà de l'humain, qui intégrerait le végétal, le minéral et les animaux?
la réflexion sur le paysage nous conduit à un élargissement, à une ouverture, en tout cas une redéfinition ontologique considérable. Hein. C'est en tout cas la position que, pour ce qui me concerne, je défends, et heureusement, je ne pense pas être le seul. Hein. On est vraiment là dans un de nos programmes intellectuels de l'époque, hein, qui traverse largement...
Vous dites d'ailleurs que notre époque est l'époque de la géographie.
Oui, enfin, voilà. C'est pas que de la géographie, je vais y venir dans un instant, mais ce sont des questions... qui consiste justement à dépasser, comme on dit, le dualisme entre nature et société, ou nature et culture, que l'on retrouve dans la plupart des programmes de recherche des sciences sociales contemporains, où vous voyez, on est véritablement dans cette espèce de tentative d'articuler ce que j'appellerais l'écologique et le social, ou l'écologique et le culturel. Ça me semble tout à fait décisif. Et s'agissant du paysage, je pense qu'il y a un enjeu particulier, en fait, et c'est pour ça que je me suis permis d'ajouter cette notion à la discussion collective, en fait, hein, qui traverse tellement de domaines aujourd'hui. Vous voyez, je le présenterai de la manière suivante. Marielle évoquait tout à l'heure un propos de Bruno Latour, il n'est pas le seul d'ailleurs à le tenir, s'agissant d'une certaine manière, alors je ne veux pas dire retour à la Terre, mais d'une certaine manière de redécouvrir la Terre.
Atterrir, donc.
Atterrir, comme il le dit, et dans des entretiens qu'il a pu avoir ici et là, un de ses interlocuteurs évoque cette idée que finalement nous avons à redécouvrir la Terre. Vous voyez, en faisant cette espèce d'analogie qui avait pu avoir entre la découverte du 15e siècle, en gros, et qui est une sorte de découverte en extensivité, en extension, et puis une redécouverte contemporaine qui serait attendue de nous, qui serait plutôt en intensivité, si je puis dire, en intention. Il m'a semblé que ce propos, qui me semble très juste, dans sa formulation générale, avait une forme d'insuffisance, néanmoins. Et en tout cas, qui méritait d'être approfondie, d'être prolongée, en tout cas, par une autre formule, qui serait justement retour à la géographie, ou retour au paysage. Étant entendu que, d'une part, il me semble que le paysage, comme je l'écris, est le visage concret de la géographie, on va dire ça comme ça. Mais surtout que la géographie, c'est pas simplement une discipline, hein, c'est aussi une manière d'être. Hein, une manière d'être, c'est-à-dire une manière d'intégrer dans la relation que nous entretenons au monde, eh bien, toute une série d'éléments, et en particulier les éléments relatifs à l'espace, mais pas que.
Vous écoutez France Culture, la compagnie des poètes, par Manu Farid.
Vous commencez d'ailleurs, Jean-Marc Besse, votre essai par une phrase très très courte et très éloquente, hein, en forme de justification du livre, hein, et j'imagine même de la collection, par cette phrase « Nous parlons mal, hein, du paysage », c'est exactement ce que vous venez de nous dire. Et puis vous poursuivez par une tentative de définition, en tout cas des contours du paysage, qui ne serait ni nature, ni territoire, ni vue, ni ambiance, ou peut-être... un peu de tout ça. Au fond, de quoi parle-t-on ? Alors, pardon, hein, la question est vraiment énorme, donc si c'est possible d'y répondre brièvement, hein, de quoi parle-t-on ou de quoi devrait-on parler, si on vous suit, quand on parle de paysage aujourd'hui ? Autrement dit, où commence le paysage ?
La question est un peu massive, je reconnais. Hein. En tout cas, il me semble qu'il y a un certain nombre de propos qu'on ne peut plus tenir innocemment sur le paysage. Et en particulier, ce propos, d'ailleurs l'expression était utilisée par Marielle tout à l'heure, on ne peut plus simplement parler du paysage comme d'un décor. Vous voyez ? Et c'est vrai qu'il y a une longue tradition, en particulier en France, qui a consisté à identifier le paysage avec un décor plus ou moins pittoresque, une vue, un territoire que l'on pourrait observer de haut et à distance. Le thème de la distance me paraît largement insuffisant désormais. précisément parce que, d'abord, on pourrait considérer que cette manière de définir ou de se rapporter au paysage comme d'un simple panorama visuel ou d'un décor pittoresque, c'est aussi une certaine manière, enfin d'une certaine façon, nous accoutumer à l'envisager comme une marchandise, comme une image mobilisable pour des manipulations idéologiques. Il m'a semblé, en fait, que sans remettre en cause, bien entendu, cette dimension de la visibilité, cette relation heureuse que nous pouvons avoir également avec le monde que nous regardons depuis, mettons, les montagnes, il m'a semblé important de rappeler que le paysage est au plus près de nous. Et que, voilà, s'il fallait le définir, vous voyez, j'essaye de vous répondre maladroitement, mais d'abord, je dirais l'endroit que nous habitons. Parce que nous le pensons, parce que nous le transformons, parce que nous en usons d'une certaine manière. Alors, évidemment, ça fait du paysage quelque chose qui n'est pas nécessairement, ou en tout cas qui ne sera pas simplement visible. Et je ne suis pas sûr que le paysage tel que j'essaie de vous le décrire là soit nécessairement, immédiatement, ou en tout cas seulement visuel. Je suis pas sûr que le paysage soit fait pour être vu, ou en tout cas uniquement pour être vu. Il peut tout également être entendu, senti, touché,
marché.
Voilà. Pour dire autrement, c'est quelque chose qui est véritablement constitutif de nos relations sensibles, corporelles, complètes avec notre environnement.
Alors j'imagine que c'est exactement ce que vous vouliez nous faire entendre, alors je me trompe peut-être, mais vous avez apporté avec vous un texte de Giono, que je vais vous laisser lire, Jean-Marc Bess, avant de nous dire, peut-être commencer par nous dire de quoi il s'agit.
Alors c'est un texte qui est consacré à la Provence. Giono se pose la question de savoir s'il peut écrire un petit traité de la connaissance des choses à propos de la Provence. Et voici ce qu'il dit. On ne peut pas connaître un pays par la simple science géographique. On ne peut, je crois, rien connaître par la simple science. C'est un instrument trop exact et trop dur. Le monde a mille tendresses dans lesquelles il faut se plier pour les comprendre, afin de savoir ce que représente leur somme. La certitude géographique est semblable à la certitude anatomique. Vous savez exactement d'où le fleuve part et où il arrive et dans quel sens il coule. Comme vous savez d'où s'oriente le sang à partir d'un cœur où il passe et ce qu'il arrose. Mais la vraie puissance du fleuve, ce qu'il représente exactement dans le monde, sa mission par rapport à nous, sa lumière intérieure, son charroi de reflets, sa charge sentimentale de souvenirs, ce lit magique qu'il se creuse instantanément dans notre âme et ce delta par lequel il avance, ses impondérables limons dans les océans intérieurs de la conscience des hommes, la géographie ne vous l'apprend pas plus que l'anatomie n'apprend aux chirurgiens le mystère des passions. Une autopsie n'éclaire pas sur la noblesse de ce cœur, cependant étalé sans mystère, semble-t-il, sur cette table farouchement illuminée à côté des durs instruments explorateurs de la science. Comme les hommes, les pays ont une noblesse qu'on ne peut connaître que par l'approche et par la fréquentation amicale. Et il n'y a pas de plus puissant outil d'approche et de fréquentation que la marche à pied.
Merci beaucoup. Quelle serait la leçon alors d'un tel extrait pour vous, Jean-Marc Bess ?
Ah, une très riche leçon. Plusieurs leçons même, je dirais. Et ce texte, déjà, me dit qu'il n'y a pas une seule géographie, ou plutôt que sous la géographie dite scientifique, ou à côté de cette géographie scientifique, il y a une autre géographie. Géographie plus, peut-être plus secrète, plus intime, plus poétique, en tout cas plus mystérieuse. J'ai envie de dire une géographie amicale. Vous voyez, une géographie sympathique avec les lieux, une géographie qui est, je dirais, d'avant le moment où nous allons vouloir déployer les instruments classiques, typiques du géographe, et en particulier d'avant la carte. Ce texte résonne beaucoup avec, justement, un certain nombre d'autres analyses qui nous indiquent en quoi, finalement, La relation, enfin l'expérience plutôt que nous pouvons avoir du paysage, elle débute à partir du moment où nous sommes quelque part désorientés, ou en tout cas où nous perdons nos repères, ou en tout cas où précisément nous passons à travers champs, j'ai envie de dire, nous quittons la route. Ça c'est une première leçon. Il y a une autre leçon qui est que je reprends la formule que je trouve très belle de Giono. Les pays ont une noblesse. Et j'aime bien cette idée de la noblesse. C'est-à-dire, cette idée de la dignité des lieux. Et il ne s'agit pas ici de parler simplement, et c'est, même si c'est important, du sol, de la topographie, des qualités ou des caractéristiques naturelles d'un lieu. Il s'agit aussi de parler des gens, il s'agit aussi de parler des vies qui s'y mènent, il s'agit aussi de parler des histoires qui s'y développent. C'est ça un pays, c'est ça qui fait la noblesse d'un pays. Et donc le respect ou l'attention qu'on peut avoir vis-à-vis d'un paysage, c'est aussi le fait tout simplement de respecter tout cela, de respecter toutes ces manières d'y être. Je crois que c'est important. Mais et pour le faire, ce sera la troisième leçon. Pour le faire, il faut y être, précisément. Il ne faut pas se tenir loin. Il ne faut pas regarder nécessairement uniquement la carte ou, aujourd'hui, le téléphone, le smartphone. Il faut tout simplement, comme le dit très bien Giono, marcher. C'est-à-dire se mettre, pour ainsi dire, dans les plis du paysage. Vous voyez ? S'y impliquer. Et le voir, pour ainsi dire, de l'intérieur, y participer d'une certaine manière. Et il me semble là...
C'est le décrire aussi, non ? Marcher, c'est aussi décrire le paysage.
C'est précisément le décrire, oui. Giono, un peu plus loin d'ailleurs, dans ce même texte, dit que la marche à pied, finalement, nous transforme en une sorte de, dit-il, je le lis, de loupe ou de télescope, au sens où nous nous approchons, nous nous rapprochons des détails et nous... pouvons véritablement non pas saisir, mais surtout sentir et comprendre par ce que nous sentons l'ensemble de ces détails qui constituent véritablement le paysage.
Alors, ce pourquoi vous plaidez, Jean-Marc Besse, dans votre ouvrage, dans la nécessité du paysage, c'est bien pour une éducation au paysage. Vous terminez même en parlant, je voudrais pas dire de bêtises, d'une école des arts de l'habiter. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, dans laquelle j'imagine Marielle Massé aurait tout à fait sa place. Et vous dites, le paysage est à la fois une condition et une expression du savoir habité. Donc, il serait aussi le paysage comme un outil de connaissance. Qu'est-ce que ce serait que savoir habiter et comment s'y éduquer? Ça fait encore une deuxième question massive, pardon.
Oui, je vous remercie pour ces questions simples.
Savoir habiter déjà, qui est déjà...
Savoir habiter, c'est une question qui est déjà un peu trop lourde pour moi, mais déjà, je peux au moins orienter l'attention, c'est le cas de le lire, vers une expression qui est justement l'expression de l'attention. Je pense que ce dont nous manquons, et je pense là encore pas du tout être le seul à le dire, ce dont nous manquons, c'est d'attention. Et c'est d'attention au monde. Au fond, je pense que, et c'est pour cette raison-là que je parle du paysage comme éducation à l'attention, je pense précisément que le paysage, précisément parce qu'il est cet univers sensible dans lequel nous sommes, la relation au paysage peut nous permettre de développer nos capacités à l'attention. Voilà, c'est aussi simple que ça, j'irais.
C'est en cela que le paysage serait nécessaire.
La nécessité, elle est là. La nécessité, elle est double. D'abord, on peut la prendre sur un registre important, global, effectivement, qu'évoquait Marielle tout à l'heure. Nous vivons dans un monde abîmé. Traduction la plus directe, comme j'ai essayé de l'indiquer tout à l'heure à propos des oiseaux, la traduction la plus directe du fait que nous vivons dans un monde abîmé, c'est que nous vivons dans des paysages abîmés. Tout simplement parce que, j'évoquais tout à l'heure à propos de la cabane la question de la respiration. On peut prendre cette question sur un registre très direct. La respiration, c'est l'air que nous respirons. Et quel air respirons-nous ? Précisément, littéralement. Quelle eau buvons-nous ? Littéralement. Ce ne sont pas simplement des métaphores. Vous voyez ? Ça, c'est une première raison de la question de la nécessité. Et puis, il y a une deuxième raison de la nécessité du paysage. C'est, comme je viens de l'indiquer, il est nécessaire d'être attentif ou de redevenir attentif au monde, de le redécouvrir, justement. C'est important. Alors, ça veut dire en particulier... j'essaie de répondre à votre deuxième question, muette. Ça veut dire effectivement se rendre attentif au sol, au pluriel, au vivant, à l'organisation et à la forme des espaces dans lesquels nous existons, c'est-à-dire en particulier les espaces urbains, c'est-à-dire se rendre attentif également à l'histoire, aux temporalités qui nous traversent et dans lesquelles en même temps nous existons. Voilà, l'éducation au paysage, ça peut être effectivement très directement transcrit, enfin cette formule, si vous voulez, peut être directement, très directement transcrite dans des programmes d'éducation, dans des programmes scolaires. Vous voyez, c'est fondamental.
Alors, il y a une chose peut-être que nous n'avons pas évoquée encore, alors il reste assez peu de temps, mais je pense à cette éducation, à l'attention, je me dis qu'au fond la littérature pourrait très bien prendre ça à sa charge également, peut-être au moins autant que le paysage, même d'une autre façon. Et dans la liste que j'ai égrenée tout à l'heure des poètes, j'en ai omis un, un peu volontairement, mais c'est sans doute celui qui travaille le plus profondément tous vos textes, hein, et qui est peut-être celui qui vous lit le mieux l'un et l'autre, et qui serait Ovide, hein, dans la mesure où vous parlez, Jean-Marc Bess, vous, vraiment du paysage comme étant un état de métamorphose permanent. Et Marielle Massé, vous terminez même votre dernier texte par un appel quasi lyrique, même, à Ovide.
Oui, un appel à réécrire les métamorphoses sur... sur les sols qui sont les nôtres aujourd'hui. Ovid est très précieux parce qu'il nous a appris justement à rassembler sur un même territoire toutes sortes de vivants. Il nous a appris que la vie, c'est ce qui passe sans cesse d'une forme dans une autre, que la vie, c'est le métamorphique. Il nous a appris aussi à supporter, en quelque sorte, les transformations. Et c'est une des tâches à la fois les plus difficiles et les plus nécessaires aujourd'hui que de supporter ce monde, avec patience se tenir dans ce monde incertain, avec toutes sortes de formes de vie qui naissent, qui disparaissent, à la fois foudroyées, réapparaissantes. Donc il y a quelque chose du grand poème d'Ovide qui bouge et qui ne cesse de bouger, qui est tellement contemporain aujourd'hui. Le métamorphique, c'est l'état de notre monde aujourd'hui. Et on doit y faire nos vies, y retenter des habitudes, on doit en faire quelque chose.
Jean-Marc Bess ?
Oui, non, je voulais ajouter une chose, en fait. C'est que c'est pas du tout cette affaire de métamorphose, c'est pas du tout un appel à l'inaction. Hein, c'est véritablement une recherche pour l'élaboration de nouvelles formes d'action. Hein, je pense que c'est important. La collection que vous avez la gentillesse d'évoquer va faire appel précisément à des contributions de paysagistes et d'architectes également. Mais ça me semble important dans la réflexion sur cette métamorphose, ces métamorphoses, et sur le paysage en particulier, ça me semble important de rappeler que, eh bien, par exemple, hein, l'action paysagiste, et c'est pour ça que je voulais faire témoigner dans cette collection, l'action paysagiste, c'est précisément une tentative de partir de l'attention, de partir de l'attention au lieu, de partir de l'attention aux rivières, partir de l'attention aux sites, comme ils sont l'habitude d'employer ce terme, pour ensuite, à partir de là, faire exister quelque chose qui est déjà présent, mais qui a besoin de cette action qu'on pourrait dire indirecte, la leur, pour apparaître.
C'est dans ce sens-là que vous dites agir avec le paysage plutôt qu'agir avec, sur le paysage.
Agir avec, on agit toujours un peu sur, mais cette proposition d'agir avec, il me semble fondamental, agir avec quelque chose qui existe déjà et que l'on accompagne, que l'on permet, à qui on permet de devenir, de se révéler. Je crois que c'est une des grandes qualités du travail des paysagistes en particulier.
Jean-Marc Besse, Marielle Massé, c'est la fin de cette émission, ou presque, puisque je vous laisse la prolonger entre vous et sans moi. Alors, excellent après-midi à vous, à toutes et à tous.
Oh. Le point qui me semble également important, je vais reprendre une partie de ce que vous évoquiez à un moment à propos de la cabane. Et de cette dimension de fragilité, au fond. Il y a quelque chose qui se dérobe constamment. Ça nous montre bien que l'action dont il est question ici, parce qu'il faut se méfier aussi de cette expression, il faut revenir à la nature, il faut revenir à la terre, etc. On n'est pas du tout dans une problématique de l'enracinement. Il y avait un philosophe nomade, je vais l'appeler nomade, Wilhelm Flusser, qui parlait bien de cela à propos de notre époque ou de comment habiter dans notre époque, nous qui vivons finalement à l'époque de la fin des racines. Et cette époque de la fin des racines, elle n'est pas du tout à regretter. Elle est au contraire la possibilité de développer des formes d'attachement au monde qui sont différentes justement et qui vont pas se caractériser par, l'immobilité dans une sorte de profondeur du sol métaphysique dont on connaît par ailleurs tous les dangers. Voyez, la question de l'habiter, et je pense que finalement c'est ce que je retiens en particulier de vos réflexions sur cette cabane, cette question de l'habiter, c'est une question de l'habiter en mobilité permanente au fond, et de cette action justement qui est peut-être dans le fil des métamorphoses, pour reprendre l'expression et en évoquant la question du fleuve.
Bah, voilà Manu qui revient.
Bah oui. En fait, je finis toujours par revenir.
Ah, d'accord, c'est le secret.
C'est le secret. C'est le secret. La Compagnie des Poètes, c'est vendredi prochain, même heure, même endroit. Merci à Thierry Beauchamp pour la préparation, à Alain Joubert pour la technique et à François Connac pour la réalisation. Vous trouverez toutes les actualités de Jean-Marc Besse et Marielle Massé sur le site de l'émission à réécouter, podcaster et partager sur franceculture.fr. À 17h, vous avez rendez-vous avec le magazine de la rédaction. Mais d'ici là, et c'est heureux, c'est l'heure de la méthode scientifique par Antoine Beauchamp.